Voilà, merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez ? Oui ? Merci beaucoup à l'équipe qui nous a conduits dans ces beaux chants. Nous sommes les disciples d'un maître qui a donné sa vie, mais qui est ressuscité d'entre les morts. Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue, je l'ai omis de le faire tout à l'heure, mais aux amis de passage, vous êtes les bienvenus, j'espère que vous le sentez. Il y a maintenant une super monitrice qui est Jocelyne Steiner qui invite les enfants à descendre au sous-sol. Et puis je ne doute pas que c'est un programme intéressant. J'aimerais présenter la prédicatrice Viviane André. Dans un premier temps, Viviane André et Evgeny vont faire la lecture de ce chapitre entier de Romains 14. Il est plein de richesses. Je présente Viviane courtement. Elle participe à la communion de cette église assez régulièrement. Elle est là, souvent discrète au fond. En même temps, vous l'avez connue, le groupe de comédiens Étincelle. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ils nous ont apporté la parole de Dieu d'une manière assez incroyable, je me souviens. Elle est auteure d'un livre avec des scénettes, actes de foi. Et puis, je la connais comme une théologienne, j'utilise un petit peu ce mot pour dire c'est une spécialiste des langues anciennes, mais de la parole de Dieu également. Elle est en deuxième année de master de recherche à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine en région parisienne, mais également elle travaille, et je pense aussi avec Evgeny, à la Société biblique de Genève, c'est le cas, et puis Viviane est attachée à l'édition, notamment, indirectement, nous l'avons apprécié, sans le savoir, lorsqu'elle a coordonné les travaux d'édition de la Second 21. Second 21, c'est une traduction de la Bible en français, et donc une actualisation dans le langage contemporain, fidèle au texte ancien, la Second 21. Je leur fais la place et nous faisons la place dans nos cœurs à un enseignement du Seigneur via l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains chapitre 14. Soyez les bienvenus pour la lecture. Après quoi, nous entendrons un morceau de musique et nous entendrons la prédication.
La difficulté quand vous choisissez un chapitre que vous n'avez pas encore vraiment travaillé, c'est que vous ne savez pas que le chapitre a des liens avant et après. Donc ce sera Romains 14 et un petit peu avant, un petit peu après. Et nous allons lire forcément dans la Seconde 21. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements
« Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas »
ainsi que tous les autres, se résument dans cette parole
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi.
Cela est d'autant plus vrai que vous savez quel temps nous vivons.
C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'au moment où nous avons cru.
La nuit est bien avancée, le jour approche. Débarrassons-nous donc des œuvres et des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Conduisons-nous honnêtement, comme en plein jour, sans orgie ni ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie.
Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions.
L'un a la conviction de pouvoir manger de tout. L'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli.
Qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre ? Qu'il tienne bon ou qu'il tombe, cela regarde son Seigneur. Mais il tiendra bon, car Dieu a le pouvoir de l'affermir.
L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que chacun ait dans son esprit une pleine conviction.
Celui qui fait une distinction entre les jours le fait pour le Seigneur.
Et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour le Seigneur.
Celui qui mange de tout C'est pour le Seigneur qu'il le fait, puisqu'il exprime sa reconnaissance à Dieu.
Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu.
En effet, aucun de nous ne vit pour lui-même, et aucun ne meurt pour lui-même.
Si nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous vivons. Et si nous mourons, c'est pour le Seigneur que nous mourons.
Ainsi, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. En effet, Christ est mort et il est ressuscité. Il est revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants.
Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet, devant le tribunal de Christ. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. »
Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère.
Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui.
Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort.
Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par l'Esprit Saint.
Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes.
Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu.
Certes, tout est pur. Mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu.
Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché.
Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi.
En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait. Mais, comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance.
Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ.
Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu.
Thank you.
prions le Seigneur. Ta parole est la vérité, Seigneur, mets-nous à part, pour ta gloire et par elle, pour ton projet sur la terre. Ce matin, nous sommes en communion avec ton Église sur la surface de la terre et nous savons que tu la conduis par ta parole, par ton esprit. Seigneur, ce matin aussi, nous sommes en communion avec nos frères et sœurs d'ici qui poussent les lits des malades aux chuves pour qu'ils écoutent ta parole et nous te demandons que tu les bénisses, Seigneur. Ce matin aussi, nos cœurs s'ouvrent à toi. Donne à Viviane la joie de nous donner ce que tu lui as donné pour nous sur la base de ta parole, Seigneur. Ta parole est la lumière sur notre chemin et nous t'en remercions. Amen.
Le texte que nous venons de lire se situe dans la lettre aux Romains, qui est de la main de l'apôtre Paul, l'apôtre juif des non-juifs. Il s'adresse à une église qu'il n'a pas fondée, qu'il n'a pas encore visitée, en dépit des 3 voyages missionnaires qu'il a déjà effectués, et il ne connaît donc cette église que par ouï dire. À ce qu'on sait, l'église est mixte, c'est-à-dire qu'elle est composée de juifs et de non-juifs. Les Juifs ont été chassés de Rome vers 49 par l'empereur Claude. Donc l'Église, qui d'abord était probablement composée de Juifs, s'est ensuite retrouvée composée essentiellement de non-Juifs, puisque les Juifs avaient dû partir, jusqu'au retour des Juifs quelques années plus tard. Et lorsque Paul écrit, on peut penser qu'elle est fondamentalement composée de non-Juifs ou de païens, avec une importante minorité judéo-chrétienne. Et apparemment, elle était organisée en plusieurs églises de maison. Alors Jésus a quitté cette terre en 30 ou 33 de notre ère. Les dates diffèrent selon les commentateurs. Et on situe la rédaction de la lettre vers 57 après Jésus-Christ à Corinthe, avant que Paul ne soit arrêté à Jérusalem et qu'il ne commence le processus qui l'amènera à Rome en tant que prisonnier. Il y est resté 3 mois, à Corinthe. Vous trouvez ce passage dans Actes 20, verset 3. Alors, il n'est pas dit qu'il a écrit la lettre aux Romains, mais on situe la rédaction à cette époque-là. Et ce qu'on oublie parfois, c'est que les premiers disciples de Jésus, les premiers chrétiens, finalement, étaient des juifs. Lorsque les premiers non-juifs, se sont tournés vers Christ, un cas célèbre est celui de Corneille. On peut situer sa conversion vers 37, donc entre 4 et 7 ans après l'ascension de Christ. La question de leur rapport à la loi de Moïse s'est posée. Les premiers croyants étaient convaincus que l'œuvre de Jésus-Christ à la croix suffisait pour le salut, mais certains estimaient que les non-juifs qui se tournaient vers Christ devaient aussi respecter la loi de Moïse et se faire circoncire. Il y a eu un concile, le premier concile de l'histoire de l'Église, qui s'est tenu à Jérusalem, on pense vers 49, et son contenu nous est raconté en Actes 15, si vous voulez lire toutes les conclusions et tous les débats, enfin en tout cas ceux qui nous sont retranscrits par la Bible. Et lors de ce concile, on est parvenu à la conclusion qu'il ne fallait pas demander aux non-juifs de respecter la loi de Moïse, ni de se faire circoncire, mais simplement d'éviter les souillures des idoles, deuxièmement, d'éviter l'immoralité sexuelle, et troisièmement, d'éviter les animaux étouffés et le sang. Et dans la lettre qui a été envoyée aux églises de non-juifs et dont Paul a été le porteur, éviter les souillures des idoles, ça a été défini comme éviter de consommer des viandes sacrifiées aux idoles. Effectivement, les viandes sacrifiées aux idoles n'étaient pas complètement brûlées en faveur des idoles et le reste se trouvait sur les marchés. Donc voilà, on a demandé aux non-juifs de faire attention à ne pas manger ces viandes. Et Paul donc a assisté à ce concile à Jérusalem et il a été chargé de transmettre ses instructions aux chrétiens d'origine non-juive qu'il visitait lors de ses voyages missionnaires. Alors si vous vous rappelez grossièrement la lettre aux Romains, vous vous rappelez qu'il y a tout un développement sur la justification par la foi dans les premiers chapitres. Donc Paul dit que tous sont coupables, les juifs comme les non-juifs. Tous sont déclarés justes par la foi en Jésus-Christ, les juifs comme les non-juifs. Tous sont appelés à vivre en se conformant à l'esprit et non à leur nature propre. Il y a trois chapitres qui parlent des juifs en disant qu'ils ne sont pas écartés définitivement dans le plan de Dieu. Et ensuite, on arrive à des considérations pratiques, si on veut, où il est dit que tous sont invités à s'offrir à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, qui lui est agréable, à mener une vie nouvelle dans la diversité des dons. Et ensuite, Paul continue en disant que tous ont des devoirs aussi envers la société. Il y a le fameux verset qui demande de prier pour les autorités. Et les uns envers les autres aussi. Et parmi ces devoirs mutuels figure le devoir de l'amour. C'est Romains 13, 8, c'est le tout premier verset que nous avons lu tout à l'heure. Alors, pourquoi Romains 14 est-il un texte qui m'intéresse ? En fait, c'est un texte qui m'a permis de garder la foi à un moment donné où je trouvais que c'était assez pénible d'être chrétien. J'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai vécu dans deux églises plutôt de tendance conservatrice. Et j'avais conscience que la foi chrétienne, c'était important, c'était bien, mais en même temps, j'avais l'impression qu'elle se résumait un petit peu à ce que je ne pouvais pas faire, ce que je n'avais pas le droit de faire. Et en tant que fille, c'est peut-être encore pire qu'en tant que garçon. Et ce passage m'a permis de me rendre compte que les chrétiens n'étaient pas obligés d'être d'accord sur tout. C'était un premier ouf. Ça voulait dire que je pouvais ne pas être d'accord. C'est déjà pas mal. Ensuite, ça m'a aussi montré que la foi chrétienne était fondamentalement caractérisée par la liberté et qu'elle ne consistait pas dans un système de règles à respecter. Et là, pour moi, c'était un deuxième ouf. Et je dois dire que ce passage m'aide aussi dans le cadre du travail à la Maison de la Bible, Société biblique de Genève. On reçoit parfois des courriers de gens qui nous accusent de... Ils s'estiment être eux des chrétiens fidèles et ils nous accusent d'être infidèles, d'être inspirés par le diable, parfois, ça va assez loin. Parce qu'on a des choix d'édition qui déplaisent, parce qu'on édite des ouvrages avec des options théologiques qui ne conviennent pas à tout le monde. Et au sein de l'équipe aussi, on est une vingtaine de collaborateurs, à peu près une douzaine d'églises différentes, sur un assez large spectre. Si on est convaincu qu'on doit toujours être d'accord sur tout, on a beaucoup de peine. Donc savoir que la Bible autorise le fait de ne pas être d'accord sur tout, ça relâche un petit peu la pression, disons. Il y a quand même une question qui se pose. Dans la Bible, on trouve des appels à l'unité, et à une unité dont l'esprit est le garant. Et on peut se demander comment est-ce qu'il est possible que des personnes qui ont le même esprit aient des différences d'opinion. Parce que logiquement, il est en nous, donc il doit nous inspirer, donc logiquement, on devrait tous penser la même chose. Alors, je ne prétends pas avoir toutes les réponses, j'en ai relevé quatre éléments de réponse. Premièrement, c'est la notion que le Saint-Esprit œuvre petit à petit en nous. Nous ne sommes pas transformés d'un coup. Nous sommes tous des chantiers en cours. Et cette expression que j'aime bien, je l'ai trouvée dans un livre que nous allons éditer bientôt, qui s'intitulera « Perfection interdite ». C'est à propos de l'Église, donc je pense que c'est assez adapté. Et finalement, les épîtres nous montrent que les chrétiens du 1er siècle connaissaient des difficultés à devenir, dans leur comportement, les saints qu'ils étaient devant Dieu. Et donc je me dis, on ne devrait pas s'attendre au XXIe siècle à rencontrer moins de difficultés qu'eux dans ce domaine. Donc il y a un petit côté rassurant là aussi. Il y a un deuxième élément qui me semble important, c'est que notre histoire personnelle joue un rôle dans le genre de conviction que nous acquérons et dans les sensibilités que nous acquérons vis-à-vis de certains points. Par mon vécu, je vais être sensible à certaines choses de la foi chrétienne, alors qu'une autre personne avec un autre vécu sera sensible à d'autres éléments. Et on ne peut pas s'attendre à ce que tous les chrétiens aient les mêmes sensibilités vis-à-vis de tous les points. Pendant des années, il y a eu le débat dans les églises sur le genre d'instrument qui pouvait être utilisé. Je ne sais pas si le débat a eu lieu ici, mais dans une des églises que j'ai fréquentées, il a eu lieu. Il y a eu des débats sur le théâtre. Je fais partie d'un groupe de théâtre, donc ce débat a eu lieu aussi. Il y a d'autres sujets comme ça, la tenue vestimentaire. Enfin voilà, il y a toutes sortes d'éléments sur lesquels on peut ne pas être d'accord. Et notre histoire personnelle, les expériences que nous avons faites vont nous influencer dans tel ou tel sens. Et même l'histoire de la théologie en général, de l'histoire de l'Église, montre que le contexte a souvent influencé les sujets sur lesquels on a travaillé. Et un troisième point, c'est que la Bible ne s'exprime pas sur tous les sujets. Il y en a sur lesquels elle garde le silence. Et malheureusement, notre tentation en tant que chrétien, c'est de combler ces silences, et parfois avec des enseignements assez douteux. Et je me souviens que mon père me racontait qu'à son époque, déjà, c'était un péché d'aller dans un bistrot. Et d'autres personnes de sa génération m'ont raconté qu'on leur disait « Ah, si vous vous trouvez au cinéma, quand le Seigneur revient, il risque de ne pas vous prendre. » Alors, je pense qu'il y avait des bonnes intentions derrière, mais on a peut-être essayé de combler un silence biblique en mettant des interdictions qui n'étaient pas forcément très bien placées. Elles nous font peut-être rire aujourd'hui, mais à l'époque, les personnes qui les ont prononcées pensaient avoir raison de le dire. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que, en donnant ce genre d'enseignement, est-ce qu'on ne passait pas à côté de péchés plus graves, finalement? Est-ce qu'on ne passait pas à côté de l'hypocrisie? Est-ce qu'on ne passait pas à côté de mensonges? Est-ce qu'on ne passait pas à côté du manque d'amour? Et est-ce que tout ça, finalement, ne restreignait pas un peu trop la perspective? Un quatrième point qui peut poser problème dans nos désaccords, c'est le fait que lorsque la Bible s'exprime sur un sujet, l'interprétation du texte n'est pas toujours évidente et elle peut faire l'objet de débats. Alors c'est vrai qu'en travaillant dans la traduction de la Bible, je vois parfois les difficultés qu'on a entre traducteurs à se mettre d'accord sur le sens d'un texte. Parfois ça va tout seul, parfois c'est un petit peu plus difficile. On peut se demander aussi si les instructions de la Bible s'appliquent, toutes les instructions de la Bible s'appliquent à tous les contextes de toutes les époques. Il y en a qui pensent ceci. Ou bien est-ce que certaines instructions sont limitées dans le temps? Ou bien est-ce qu'on devrait plutôt rechercher le principe qui se cache derrière l'instruction pour pouvoir l'appliquer à notre époque? Donc tout ça, c'est des interprétations différentes qui peuvent aboutir à des désaccords sur des points tout concrets. Alors là, je vous présente une image qui se trouve dans le livre de doctrine pour une foi réfléchie, que nous avons édité à la Maison de la Bible. Alors c'est un livre de doctrine dans lequel nous avons pensé utile de mettre des illustrations, parce qu'il s'adressait notamment aux jeunes. Et puis on s'est dit, les illustrations peuvent des fois faire passer un message que le texte arrive moins bien à faire passer. Et là aussi, on a eu des désaccords, parce qu'il y en a dans l'équipe qui n'étaient pas enthousiaste à l'idée de mettre des illustrations dans un livre de doctrine. Ça faisait pas assez sérieux, ça faisait... Pour certains, ils le sentaient presque comme blasphématoire. Et bon, on les a quand même mises. Mais là, vous avez un exemple avec le verset qui est bien connu et qui est fondamental pour la foi chrétienne, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Certains vont mettre l'accent sur « Tu aimeras ». Donc l'important, c'est d'aimer. Il y en a d'autres qui vont dire « Ah, mais il faut aimer comme toi-même ». Donc l'important, c'est de s'aimer soi-même. Et ça, c'est assez en vogue depuis quelques années. Et puis, il y en a d'autres qui vont dire « Ah non, non, c'est pas soi-même qu'on doit aimer, c'est le prochain. » Donc, vous voyez déjà que sur ce texte, il y a au moins trois accents particuliers qu'on peut placer. Et pourtant, c'est un texte fondamental de la foi chrétienne. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellée quand j'ai lu le texte de Romains 13, 8 à 15, 7. C'est qu'en Romains 15, 4, Paul indique la raison d'être de la Bible. Tout ce qui a été écrit d'avance, donc en l'occurrence c'est l'Ancien Testament, là, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Et je me suis demandé pourquoi il avait choisi de mettre cette remarque sur les Écritures à cet endroit-là. Et je me dis que, bon, je n'ai pas complètement creusé la question parce que il aurait fallu creuser toutes les questions, ça aurait pris trop de temps. Mais je me demande si, lorsque les Écritures, lorsque la Bible ne nous procure pas espérance, réconfort et persévérance dans la foi, est-ce que nous les comprenons vraiment bien? Est-ce que nous la comprenons vraiment bien? C'est peut-être une question que nous pouvons nous poser. Est-ce que nous en faisons un bon usage? Alors, dans ce passage de Romains 14, Paul distingue des forts et des faibles dans deux domaines où ils se sentent plus ou moins libres. L'alimentation, il parle de viande et de légumes, et les jours spéciaux. Alors, qui sont les forts? C'est ceux qui se sentent le plus libres dans ce passage. Et les faibles, c'est ceux qui se sentent le moins libres. Et qui sont-ils précisément? Alors, là aussi, ben voilà, on est en plein dans le sujet, il y a des théories divergentes sur le sujet. Parce que Paul ne précise pas. Mais on peut supposer quand même que ces forts et ces faibles, on les trouve à la fois chez les juifs et chez les non-juifs dans l'Église de Rome. Pour les juifs, ça pourrait être des juifs donc, qui se sont convertis à Christ, mais qui restent attachés au mode de vie qu'ils ont hérité de leurs ancêtres. Et ce mode de vie ne peut que plaire à Dieu, puisqu'il se trouve dans sa loi. C'est l'Ancien Testament qui l'a décrit. Donc, il respecte les interdits alimentaires de la loi de Moïse, qui les distingue des autres peuples. Cela dit, les interdits alimentaires de la loi de Moïse autorisent la consommation de viande, simplement pas de toutes les viandes. De même, ces juifs convertis au Christ pouvaient juger important de respecter les sabbats et les jours de fête juifs. Par contre, d'autres, comme Paul, s'estimaient totalement libres vis-à-vis des prescriptions de la loi de Moïse. Ils estimaient qu'elles n'avaient pas forcément à être appliquées telles quelles. Du côté des non-juifs, on en a un petit peu parlé, il y avait de la viande sacrifiée aux idoles qui était vendue au marché, enfin des restes de viande sacrifiée aux idoles. Donc, pour ceux qui venaient d'un arrière-plan non-juif, du paganisme, et qui se tournaient vers Christ, il pouvait y avoir un sentiment de souillure quand ils consommaient cette viande-là. Ils avaient l'impression d'être reliés à leur passé, finalement. Par contre, d'autres n'éprouvaient aucun problème à en manger parce qu'ils estimaient que les idoles n'existaient pas, elles ne représentaient rien, donc la viande qui leur était sacrifiée ne représentait rien non plus. Et même chose avec les jours de fête qui étaient associés au paganisme. Alors on pourrait se dire, Paul, finalement, il invite au relativisme. Toutes les théories se valent, l'important c'est de vivre ensemble, en paix les uns avec les autres. Et en fait, ce n'est pas vrai, parce qu'il ne dit pas que toutes les opinions se valent. Il parle déjà de forts et de faibles, donc il signale quand même une différence de valeur entre les opinions de ces personnes. Et ce que lui souligne, c'est que la vérité va dans le sens de la liberté. Il y a des idées différentes possibles, mais elles n'ont pas toutes la même valeur théologique. Et il l'affirme en Romains 14:14, il affirme sa conviction personnelle. Il dit « Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi ». Donc lui se range du côté des forts et de la liberté à titre personnel. Mais il y a quand même un problème, c'est que même si on est du côté des forts, on peut se dire « Ben voilà, maintenant tout va bien, j'ai raison d'avoir mes opinions, et puis les autres n'ont qu'à suivre ». Et en fait, le passage de Romains 14:14, le chapitre, contient de façon intéressante plusieurs fois la même racine grecque, krino, qui veut dire séparer, distinguer, décider, juger, peser. Alors dans le texte français, on n'arrive pas forcément à le rendre, parce que c'est un petit peu compliqué, ça donnerait quelque chose qui n'a pas vraiment de sens en français, ou qui serait trop difficile à comprendre en première lecture. Donc, vous avez en 14:1, accueillez le faible sans discuter, et vous avez le mot diakrisis qui vient de krino, qui signifie dispute ou jugement, sans discuter les opinions. En 14:3, que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait. Donc la krino apparaît, on peut le traduire tel quel. 14:4, qui es-tu pour juger le serviteur d'un autre ? 14:5, l'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Et là, on a eu de la peine à rendre en français parce que littéralement, c'est l'un juge un jour par rapport à un jour et l'autre juge toujours. Alors si on traduit comme ça, vous ne comprenez rien. Donc voilà, on a dû changer la formulation, mais derrière, c'est quand même le même verbe qui apparaît deux fois. En 14:10, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? 14:13, ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez, et là de nouveau, c'est le verbe juger qui apparaît. Donc jugez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. 14:22, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même, et là de nouveau, c'est juge, celui qui ne se juge pas lui-même par ce qu'il approuve. Et enfin, en 14:23, celui qui a des doutes, et c'est le verbe diakrinomai, qui est aussi un composé de krino, celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné. Et de nouveau, c'est katakrinomai, cette fois, c'est un autre composé de krino. Donc on peut, voilà, je pense que Paul a vraiment voulu mettre l'idée de jugement en avant dans ce passage, dans ce chapitre. Et la conclusion à laquelle je suis arrivée, c'est qu'il y a deux sortes de jugements. Il y a un jugement que l'on exerce pour se montrer négatif vis-à-vis de l'autre, dans un esprit de supériorité. Et puis, il y a un jugement que l'on exerce pour ne pas faire de mal à l'autre, et même pour l'aider. C'est ce que Paul dit dans Romains 14:13, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais jugez plutôt pour ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. » Et là, il emploie deux fois donc le verbe « juger » avec une nuance différente. Finalement, juger l'autre, pourquoi est-ce que c'est interdit ? Enfin, pourquoi est-ce que c'est... On va pas employer le verbe interdire, pourquoi est-ce que c'est blâmer ? C'est parce que finalement, c'est empiéter sur des prérogatives divines. C'est Dieu qui a le droit de juger. Nous sommes ses serviteurs, nous lui appartenons à lui, et c'est à lui de juger ses serviteurs. Ce n'est pas à nous, serviteurs, de nous juger entre nous. Et donc, Paul nous invite clairement à ne pas adopter l'attitude qui consiste à condamner l'autre, à nous croire supérieurs à lui dans notre manière de penser. Donc voilà, on l'a fait disparaître d'un simple clic. Si c'était plus simple dans la vie, ce serait bien, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais cette notion que Dieu est le maître de tout chrétien et que c'est à lui que chacun doit rendre des comptes, c'est vraiment une notion qui est importante dans ce chapitre 14. En fait, la menace la plus grande pour l'unité des chrétiens, ce ne sont pas les divergences d'opinion. C'est l'esprit de condamnation et de supériorité avec lequel elles peuvent être abordées. Et là, j'ai en partie la réponse à ma question, pourquoi il y a un seul esprit et plusieurs opinions. Il y a aussi le fait que finalement, en ayant des différences d'opinion, on apprend à, peut-être, si le Seigneur fait cette œuvre en nous, on apprend à ne pas juger l'autre et à ne pas avoir un esprit de supériorité. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'en Romains 15, 5 à 6, après tout ce développement sur les différences entre les forts et les faibles, Paul n'hésite pas à appeler à l'unité et à une unité forte. Il dit que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est possible de parler d'une seule voix et d'avoir un plein accord les uns avec les autres, tout en n'étant pas d'accord sur certaines choses. Alors une des choses que je constate dans ma vie et puis dans le service que j'accomplis, c'est que lorsqu'il y a quelque chose qui est fait en lien avec la foi, on a tendance à être assez convaincu de ce qu'on croit en tant que chrétien, et on a tendance à se montrer assez chatouilleux aussi sur ces points-là. Et c'est très facile justement pour nous de condamner le croyant qui n'a pas les mêmes convictions ou de le mépriser. Et en Romains 14, 10, Paul le montre bien en disant « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère ? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère ?» L'esprit de supériorité, finalement, je crois qu'il est assez naturel dans ces domaines-là notamment. Et aussi bien l'attitude négative des forts vis-à-vis des faibles que celle des faibles vis-à-vis des forts, ces deux attitudes-là sont condamnées par Paul. Je pense que la difficulté en tant que chrétien, c'est qu'on est convaincu de connaître la vérité, mais la difficulté peut-être que l'on a, c'est d'admettre qu'on ne connaît pas, on ne comprend pas forcément toute la vérité, et qu'il y a des choses, des domaines dans lesquels on a besoin de progresser en compréhension, et puis il y en a d'autres où on ne saura la réponse qu'au ciel, donc il vaut mieux ne pas trop se battre sur la terre avant. Alors, si vous connaissez 1 Corinthiens, vous vous rappelez peut-être, au chapitre 8 et 10, Paul aborde la question de la viande sacrifiée aux idoles. Et il l'aborde un peu dans la même perspective qu'ici. Vous connaissez peut-être le fameux slogan « Tout est permis ». Et Paul dit « Oui, mais tout n'est pas utile ou tout n'édifie pas ». Il y a deux versions. Hein. Et il dit en 1 Corinthiens 8, 9 « Veillez à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles ». Et en 1 Corinthiens 8, 1, il donne aussi un principe de base. La connaissance rend orgueilleux, mais l'amour édifie. Donc Paul ne demande pas en fait aux forts de renoncer à leurs convictions, puisqu'en Romains 14, 22, il dit « Garde cette foi que tu as », mais il demande de faire preuve de sensibilité envers les autres, en se laissant guider par quelque chose qui est la corde dans une corde. Et alors, oui, sur la photo, il y a une corde, mais on ne la voit pas très bien. Ils sont attachés l'un à l'autre. Et c'est le lien de l'amour qui est ce lien de cordée dans Romains 14. Et d'ailleurs, j'ai eu la peine à ne lire que Romains 14, parce qu'en Romains 13, 8, Paul pose le principe de l'amour, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Il reprend ce critère de l'amour en Romains 14, 15. Il dit, si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Donc c'est un critère pour le choix de tel comportement à l'intérieur de la liberté en Christ. Et puis, il reprend la notion de dette ou de devoir qui était dans « ne devez rien à personne ». Il la reprend en Romains 15, 1. « Nous qui sommes forts, nous avons le devoir ou la dette de supporter ou porter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. » Alors, on pourrait se demander, est-ce que finalement, ce ne serait pas plus simple de ne pas avoir d'opinion ? Est-ce qu'on a le droit d'en avoir, finalement ? parce que ça pose pas mal de problèmes. Alors, il me semble que le texte, justement, permet de garder des opinions et il pose un certain nombre de critères pour les opinions personnelles. Premièrement, il est important de veiller à ce qui motive cette opinion ou ce comportement. Et bon, là, tout à l'heure, j'ai parlé de l'histoire personnelle. Il peut y avoir d'autres raisons, d'autres motifs derrière telle ou telle opinion que nous défendons. Un deuxième élément, c'est l'impact qu'a ce comportement ou cette opinion sur nos frères et sœurs dans la foi. Et aussi, par ailleurs, sur les personnes extérieures à la foi. Il y a un critère que Paul met bien en avant, c'est la place du Seigneur. Notre manière de nous comporter, elle doit être pour le Seigneur et dans la reconnaissance envers lui. Vous vous souvenez, il y a plusieurs versets où il disait « Celui qui ne mange pas de viande, il mange pas de viande pour le Seigneur, et celui qui en mange, il en mange pour le Seigneur. » Un quatrième critère, c'est le critère de la foi. Le comportement doit être motivé par notre foi, ou l'opinion doit être motivée par notre foi, par ce que nous croyons, et qui, à ce que nous comprenons actuellement, peut-être que ça changera dans quelques temps, plaît à Dieu. Si notre opinion n'est pas motivée par cela, il y a un problème. Si nous agissons à l'encontre de ce que nous croyons être la volonté de Dieu, nous commettons un péché, en fait. Et parce que faire quelque chose qu'on pense mal, ce n'est pas chercher à plaire au Seigneur. Et chercher à plaire au Seigneur, c'était un critère important. Il y a aussi quelque chose que nous devons reconnaître, je pense, c'est que notre tendance en tant qu'être humain, c'est de nous attacher à des questions secondaires, visibles et matérielles au mépris de l'essentiel. Et je pense que nous devons faire l'effort de veiller dans nos convictions même, dans notre façonnage d'opinion, à faire une distinction entre l'essentiel et le secondaire. Nous devons nous demander ce qui est en jeu, ou autrement dit, quel est l'enjeu. Si vous lisez l'Épître aux Galates, vous pouvez trouver que Paul est beaucoup plus incisif, il est beaucoup moins « gardez vos opinions ». Aux Galates, il dit « vous êtes sans intelligence, qui c'est qui vous a fait croire qu'il fallait que vous vous fassiez circoncire ?»« Qui c'est qui vous a fait croire que vous deviez respecter la loi de Moïse ?» Et on pourrait se dire « c'est pas le même auteur ». Si, c'est le même. Simplement, dans le cas de l'Épître aux Galates, l'enjeu, c'était la portée de la doctrine de Christ, de l'œuvre de la croix, de Christ à la croix. Ceux qui enseignaient les Galates à se faire circoncire et à respecter la loi de Moïse, c'était des personnes qui disaient que finalement, ce que Christ avait fait à la croix n'était pas suffisant. Il fallait en plus se faire circoncire pour être sûr d'être sauvé. Et là, à l'église de Rome, apparemment, le problème ne se pose pas de cette manière-là, c'est juste des petits conflits entre personnes qui ont des opinions différentes. Ce n'est pas la doctrine de la croix de Christ qui est mise en jeu. Par contre, il y a un enjeu quand même, c'est le possible éloignement de Christ de certains. Et ça, c'est l'enjeu sur lequel Paul veut insister. En fait, ce que Paul dit, enfin, il dit beaucoup de choses, mais ce que Paul dit, c'est que nous avons une responsabilité individuelle devant Dieu qui n'empêche pas que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres. Il ne nous invite pas à renoncer à notre liberté pour satisfaire des motifs égoïstes, parce qu'il peut y avoir une dictature des faibles, entre guillemets, aussi. Certains peuvent se dire « moi j'ai telle opinion et je veux que tout le monde pense comme moi, donc dans l'Église, tout le monde doit avoir le même avis, et si vous n'avez pas cet avis-là, je vais être choqué. » Mais Paul ne nous dit pas si l'autre va simplement être choqué, arrêtez tout. Il nous dit vraiment regardez si l'autre peut risquer de s'éloigner de Dieu, peut risquer de s'éloigner de Christ, peut perdre la foi ou peut être entravé dans sa foi par l'opinion ou le comportement que vous adoptez. Donc en fait, c'est une question de sensibilité aux besoins de nos semblables. Et même Paul dit en Romains 15:2 qu'il ne s'agit pas seulement de chercher à plaire à notre prochain, mais il faut chercher à lui plaire pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. Et en fait, tout cela se résume toujours par le mot amour. Si nous aimons vraiment notre prochain, nous chercherons à agir dans son intérêt. Alors, en conclusion, juste peut-être l'idée qu'on pourrait avoir un désagréable sentiment d'injustice à l'idée de devoir renoncer à notre liberté. C'est une liberté en Christ, et puis mince, on doit y renoncer. Et en fait, à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, on trouve l'idée que Christ lui-même est l'exemple à suivre, le modèle à suivre, que nous avons à marcher sur ses traces. Et Paul recourt aussi à cette notion d'exemple. Parce que lui n'a pas recherché ce qui lui plaisait lorsqu'il s'est agi de nous sauver. Vous avez, en Romains 15, 2 à 3, le verset qui dit « Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais, comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. » Et en Romains 14, 1, il est écrit « Accueillez le faible ». Alors, si on traduit un peu plus littéralement, c'est « pas en vue de jugement d'opinion ». Et en Romains 15, 7, vous avez un petit peu la même structure de phrase dans le grec. « Accueillez-vous les uns les autres ». Donc là, on change, c'est pas seulement le faible, c'est mutuel. « Comme Christ vous a accueilli », donc là on a l'exemple de Christ, « en vue de la gloire de Dieu ». Dans le domaine des opinions, comme dans tous les autres domaines, l'accueil que Dieu nous réserve en Christ doit nous servir de modèle et d'inspiration. Et finalement, c'est vrai que quand on pense à tout ce qu'il a fait pour nous, on ne peut être que dans la reconnaissance vis-à-vis de tout ce qu'il a fait. On a chanté « Attaché à la croix » pour moi, c'est un chant que je trouve toujours très touchant, parce que je me dis, mais c'est vrai, si je réfléchis à ma foi, elle est fondée sur ce que Christ a fait, il a fait quelque chose d'incroyable pour moi, alors que je ne le méritais absolument pas et je n'avais absolument rien fait pour qu'il me sauve. Il nous a introduits dans sa famille alors que nous étions encore des pécheurs, et ça doit nous aider à avoir le même regard finalement vis-à-vis de nos frères et sœurs et vis-à-vis des autres personnes. Donc un petit résumé. Donc il y a un cadre qui est celui de la liberté. Il y a le lien de l'amour qui doit être présent à l'intérieur de ce cadre, d'après Paul. Il y a l'exercice d'un jugement positif. Le sens de la responsabilité devant Dieu et vis-à-vis des autres, avec un objectif qui est la gloire de Dieu, et un modèle, celui de Christ. Et je pense que dans cet état d'esprit-là, les différences d'opinion n'empêchent pas une authentique unité. Alors, je vous ai mis tout au long de ce message l'image de la cordée. On pourrait penser que celui qui est en haut s'arrête par esprit de supériorité, ou bien alors il s'arrête simplement pour attendre les autres, pour s'assurer qu'ils suivent bien, pour s'assurer que tout le monde est bien, toujours dans le même rythme. Et je crois que c'est plutôt ça que l'on doit avoir comme état d'esprit.